La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
7h14, les voix de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Frédéric Messian.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez signé ce livre, donc Meta Marque aux éditions Débat Public. Vous êtes un grand expert des marques. Une marque vend ses produits, cultive son image, elle soigne ses clients, elle affine son positionnement. Qu'est-ce qu'une Meta Marque par rapport à tout ça?
Écoutez, en fait, ça fait finalement 25 ans que je conseille des marques et j'avais un caillou dans ma chaussure qui était un livre qui a été publié par quelqu'un qui s'appelle Naomi Klein, qui s'appelait Nos Logos, il y a à peu près 25 ans, et qui prédisait la fin des marques, qui s'insurgeait contre la tyrannie des marques. Et je voulais absolument répondre à ce livre, notamment en expliquant qu'elle s'est trompée totalement et que les marques, au contraire, sont devenues aujourd'hui un outil puissant pour les entreprises.
Ce sont nécessairement des marques globales, géantes, connues partout dans le monde, les métamarques?
Ce sont généralement des marques puissantes et mondiales, puisqu'en fait une métamarque a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle a dépassé son lit originel du marketing pour embrasser les grands défis du monde. Et pour ce faire, il faut des moyens. Et deuxièmement, une vraie marque, c'est une marque qui affiche une vraie singularité, c'est-à-dire qui est capable de répondre à la question qui a l'air a priori assez simple, mais dont les réponses sont parfois compliquées. En quoi le monde serait différent si dommage n'existait plus?
Et vous dites que souvent, justement, ceux qui ne savent pas répondre ou qui le répondent de façon un peu bateau, avec des généralités, c'est que c'est le début de la fin ou que c'est le début des questions vraiment, là, pour le coup, à se poser.
En fait, les grandes marques qui résistent, les grandes marques qui, aujourd'hui, peuplent notre quotidien, sont soit des marques récentes, qu'une partie des marques à moins de 25 ans, notamment les grandes marques de la tech qu'on a tous en tête, et puis il y a aussi des marques historiques, et notamment des marques comme d'un groupe comme L'Oréal, dont le directeur général a gentiment signé la préface, qui montrent à quel point, en travaillant leur singularité, elle s'impose et se développe dans le paysage de l'économie.
Vous dites aussi que tout est marque, à la fois Dior, Chanel, Hermès, autant que Paris, Londres ou New York, ou évidemment toutes les grandes stars mondiales de la pop ou du football.
Oui, on pourrait même ajouter de la politique qui adopte de plus en plus les codes des marques. Et en fait, à nouveau, pour répondre à cette question qui est vraiment centrale sur la singularité, il faut avoir un propos singulier si on veut exister sur la scène. Et c'est vrai que la façon dont les marques se construisent, je pense, est assez inspirante pour beaucoup d'autres acteurs.
Pour être clair, est-ce que vous trouvez cela positif, le passage des marques aux métamarques, ou est-ce que c'est excessif, ce côté « on est un peu responsable de tout » ?
En fait, la nature ayant horreur du vide, en fait, les marques occupent des interstices que la puissance publique au sens large a laissé libres. Et aujourd'hui, qui nous parle de santé, de beauté, de culture, de diversité, ce sont les marques. Alors évidemment, il faut des garde-fous, mais ces garde-fous existent. Et en plus, les marques sont devenues hyper responsables. Il y a peu d'acteurs qui aujourd'hui vivent sous le regard aussi acéré, notamment des réseaux sociaux, et qui ont à gérer des considérations extrêmement complexes.
C'est-à-dire que le faux pas peut effacer très vite le succès bâti patiemment pendant 50 ans.
Bien sûr, vous avez raison. La sincérité des marques aujourd'hui, où l'alignement entre ces différentes cibles est devenu clé. Aujourd'hui, qui peut imaginer tenir 4 discours différents devant ses actionnaires, devant ses collaborateurs, devant des associations ou devant les médias? Évidemment, les marques aujourd'hui doivent avoir un discours extrêmement aligné sur tous ces points de contact. Et d'ailleurs, quand on voit...
Mais donc, elles sont plus fragiles qu'il y a 50 ans?
Oui, bien sûr. De par la puissance des réseaux sociaux qui aujourd'hui alimentent les divergences.
Est-ce qu'elles sont devenues des influenceurs finalement, les marques?
Bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs, en cela, elles sont également encore plus responsables qu'avant. Elles portent, quand on voit on se souvient de la période du Covid, par exemple, on voit bien que les marques qui étaient impliquées dans la santé ont eu à gérer des situations extrêmement complexes sous l'œil attentif des publics.
Le sujet central pour les métamarques, en ce moment en tout cas, c'est la transition écologique. C'est la responsabilité au sens très large aussi. Égalité femmes-hommes, inclusion.
Bien sûr. Bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a un terme qui est la marque employeur. Oui. Aujourd'hui, les entreprises ont, notamment dans des pénuries, dans certains secteurs d'emploi, à piloter avec beaucoup de précision cette dimension sociale et au-delà sociétale de leur marque. Et elles doivent évidemment anticiper l'ensemble des contraintes qui se posent.
Le concept de marque employeur, que c'est devenu une évidence aujourd'hui, ça n'existait pas il y a quoi? 20 ans?
Ça a commencé à apparaître effectivement dans les années 2000, avec cette espèce d'exigence absolue de recruter les meilleurs et les garder.
Et par rapport à la transition écologique, il y a encore 5 ou 10 ans, le greenwashing, le discours de bonnes intentions sans grand-chose derrière, pouvait suffire. Aujourd'hui, on exige des preuves.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer un consommateur, par exemple, qui puisse acheter un produit ou un service sans se poser la question avant de la conduite de la marque qui promeut ce produit ou service? Personne. C'est devenu un prérequis absolument indispensable. Et ce qu'il faut souligner, c'est que les marques ont fait en 15 ans un effort. Il n'y a pas d'acteur, en fait, je crois, dans la sphère et publique et privée qui ait commis autant d'efforts en aussi peu de temps.
Que dites-vous, Frédéric Messian, auteur du livre Métamarque, donc aux éditions Débat Public, sur le débat sur la raison d'être? Quelques mots ou phrases que les entreprises s'attribuent, c'est devenu très à la mode, mais on dit parfois que c'est un peu fourre-tout, un peu vide de sens, et avec un rapport éventuellement limité au métier de l'entreprise. Il y a ce débat qui est monté 5 ans après la loi Pacte qui a permis cette raison d'être.
Écoutez, vous avez raison, c'est vrai que l'exercice est complexe, il peut être ou très réussi ou parfois légèrement raté. En fait, l'important, c'est qu'effectivement qu'il y ait du lien et du sens. En fait, les entreprises, qui est nouveau, ont accepté, et c'est assez récent, moins de 10 ans, ce double statut: je suis à la fois un agent économique performant et un acteur de la cité engagé. Et il faut que l'engagement que la marque prend au cœur de la cité soit en rapport, évidemment, avec le métier de l'entreprise, et puisse, en tout cas, ne pas être prise en défaut dans l'exécution qu'en fait une entreprise.
Est-ce que parfois un groupe risque d'avoir trop de marques? Quand on voit par exemple Stellantis, on va parler ce matin avec David Barrault de Jeep, mais Stellantis c'est aussi Peugeot, Citroën, DS évidemment, et puis tout un tas de marques, elles sont 15 donc au total. Est-ce que c'est facile de gérer tout ça? Ou est-ce qu'en fait la marque Stellantis disparaît au profit de chacune des marques?
Enfin, d'abord Stellantis, on pourrait discuter de son statut de marque, en tout cas c'est une marque ombrelle pour prendre ce verbiage professionnel, mais je crois que la réponse au risque de me répéter, c'est vraiment dans la singularité. Tant qu'une marque fait une proposition de valeur qui est distinctive, elle existe et elle existera longtemps. Dès l'instant où elle disparaît un petit peu, où ça devient un habillage un peu fictif, là, la marque est en danger.
Les marques qui font face aussi au choc du monde, l'exemple après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de l'attitude des marques et de leurs explications respectives sur leur présence en Russie ou leur retrait, montre qu'il n'y a pas un modèle. Est-ce que ça, c'est un cas d'école aussi récent de l'attitude qu'ont les marques vis-à-vis de toutes ces responsabilités qu'on leur impose ou qu'elles s'imposent à elles-mêmes?
Écoutez, l'exercice devient extrêmement complexe pour les entreprises et pour les marques. On parle, bien sûr, vous parlez de l'Ukraine, mais on pourrait parler de la Chine ou d'autres sujets qui agitent le monde. Et c'est vrai que les marques doivent trouver le bon positionnement entre, à nouveau, la vertu, la raison d'être qu'elles affichent, vous en parliez à l'instant, et puis de leur exécution, considérant que le public au sens très large, tous ceux qui observent les marques avec attention et avec parfois beaucoup les marques n'ont jamais été autant aimées par leur public, et toutes les études le montrent depuis 5 ou 6 ans, et donc ça leur crée des contraintes extrêmement fortes et des arbitrages qu'elles doivent rendre quotidiennement sur ces sujets.
Ce livre, c'est un peu un grand manuel de marketing des marques, que sont nécessairement les métamarques.
Écoutez, les marques sont vraiment devenues un outil de management, un outil d'alignement, et j'étais frappé lors de l'annonce récente du plan stratégique de Decathlon, par exemple, de voir que tout est passé par le prisme de la marque, et que une marque bien utilisée permet de tout réaligner, le discours en interne, la production, la distribution de ses produits ou de ses services, et que c'est un outil très précieux quand il est bien manié.
Précisément, Decathlon avait construit jusqu'à 70 marques, je crois, une par vraiment sport, voire sous-catégorie, et l'a réduit à une quinzaine de vraies grandes marques maison. Merci beaucoup, Frédéric Messian.
Merci.
Je renvoie donc à ce livre, Métamarque, aux éditions Débat Public. Notre invité ce matin dans Les Voix de l'économie, très bonne journée.
Merci infiniment.
Il est 7h23, les coulisses d'une campagne aux airs de mission désespérée. La politique avec Marion Mourgue du Parisien, c'est dans 3 minutes.